Une vie, une œuvre, Charlotte Salomon, Berlin 1917, Auschwitz 1943. Bonjour, vie ou théâtre, voici le titre de l'œuvre de Charlotte Salomon. Cette étudiante des Beaux-Arts de Berlin a entre 1940 et 1942 peint plus d'un millier de gouaches qu'elle a choisi de doubler d'une feuille de calque où elle écrit ce qui constitue sa vie. Son enfance, pétrie de drames familiaux, où s'engouffrent tragiquement sa tante, sa mère, puis sa grand-mère, le joug nazi et plus largement la comédie humaine. Après Bruno Pedretti, David Fuenquinos lui a consacré récemment un roman. Il a rencontré le docteur Moridis, à qui Charlotte Salomon a confié une valise avec cette phrase « C'est toute ma vie ». Son œuvre est actuellement visible au Musée historique juif d'Amsterdam. Catherine Poimbert signe avec Dominique Costa et une recomposition de Jean-Christophe Francis, Une vie, une œuvre, Charlotte Salomon.
Tout en haut du rocher poussent des poivriers. Le vent agite doucement les petites feuilles argentées. En contrebas, l'écume se volatilise sur la mer s'étirant à l'infini. Écume, rêve, mes rêves sur fond bleu, comment faites-vous pour sans cesse vous reformer, lumineux, à partir de tant de souffrances et de douleurs? Qui l'a permis? Rêve, parle-moi. De qui es-tu le valet? Pourquoi me sauves-tu? Tout en haut du rocher poussent des poivriers. Le vent agite doucement les petites feuilles argentées.
Je voudrais qu'on la regarde un peu comme un nouveau Cervantes. Et que vraiment Charlotte Kahn, la Charlotte littéraire, soit vue un peu comme notre Don Quichotte. Pas pour ses utopies ou le vitalisme, pas pour des analogies thématiques, mais parce que dans la vie, on est toujours dans la relation entre ce qui est notre attente, entre ce qui est notre fiction, et la réalité.
Une vie, une œuvre, Charlotte Salomon, une émission de Catherine Poimbert.
Quand elle a terminé ses 1325 gouaches, qu'elle a réalisées certainement entre 41 et 42, la décision de commencer Vie au théâtre date de 1940, à son retour du camp de Gours. Elle compose très fiévreusement ses gouaches. Et une fois qu'elle a terminé son œuvre, elle en sélectionne 769, qu'elle numérote. Elle adjoint des pages écrites et elle équipe, on peut dire, chaque œuvre jusqu'à à peu près la partie principale. Elle les équipe d'un calque de la même taille. Et quand elle a terminé cette version autorisée, elle la remet au médecin de Villefranche qui s'occupe d'elle, avec qui elle a noué des liens assez forts. Et elle lui dit « Prenez-en soin, c'est toute ma vie. » Et c'est lui qui a sauvegardé l'œuvre.
« 1325 gouaches de 32,5 cm sur 25 cm accompagnées de textes et de références musicales, le tout intitulé « Vie ou théâtre ». C'est ce qu'il nous reste de Charlotte Salomon. Une œuvre unique, singulière, exceptionnelle, extrêmement émouvante. Et pas seulement parce que nous savons que Charlotte Salomon est morte en 1943 à Auschwitz à l'âge de 26 ans. Mais aussi parce que cette œuvre l'a sauvée de la folie. Parce que cette œuvre, produite en 18 mois, est un acte de survie et surtout parce qu'elle représente l'acte de naissance d'une très grande artiste. Si cette œuvre nous bouleverse, c'est aussi parce que grâce à sa créativité, Charlotte Salomon a conjuré la fatalité et accompli le destin familial. Lorsqu'en 1939, la jeune artiste juive quitte Berlin pour se réfugier dans le sud de la France, elle emporte pour tout viatique une phrase. Puisses-tu ne jamais oublier que je crois en toi ? Cette phrase lui a sans doute permis de transcender l'histoire, les menaces et les terribles secrets de famille qui lui seront révélés juste avant qu'elle n'entreprenne de créer quelque chose de vraiment fou et singulier. Dans le prologue de Vie ou théâtre, Charlotte Salomon écrit : voici comment ces feuilles prennent naissance. La personne est assise au bord de la mer. Elle peint. Soudain, une mélodie lui vient à l'esprit. Alors qu'elle commence à la fredonner, elle remarque que la mélodie va exactement avec ce qu'elle veut coucher sur le papier. Un texte s'ébauche en elle, et voici qu'elle se met à chanter la mélodie avec ce texte qu'elle vient de composer, recommençant à voix haute un nombre incalculable de fois, jusqu'à ce que la feuille lui semble achevée. Et voilà que près de 70 ans plus tard, tandis que nous découvrons ces gouaches, nous commençons à entendre la voix qui les accompagne, la voix de Charlotte Salomon, cette jeune fille qui accède à la féminité, dont le travail est souvent comparé aux journaux d'Anne Frank ou de Hetty Hillsum, cette jeune femme qui en 1940 choisit de vivre, de devenir artiste et qui se représente face à la mer, portant sur son corps le titre de son œuvre, Vie, point d'interrogation, ou théâtre, point d'interrogation.
C'est d'ailleurs, j'ai quelques images que vous voyez là-bas, dans mon autre bureau très sale là-bas, et il y a une image de Charlotte Salomon que j'ai depuis toujours.
C'est vrai, comme ça, oui. Qui est accrochée là-bas.
Qui est accrochée, qui je croyais sur le mur de droite.
Si je peux les regarder.
Oui, il y a des images de Cantor, il y a deux ou trois autres images, et l'image de Charlotte Salomon.
Ah oui, donc elle vous accompagne, quoi. Elle est là.
C'est une carte postale qui devrait être sur le mur de droite, le mur de gauche ici. Voilà, dans l'autre pièce, voilà. Moi, ce qui m'a passionné tout de suite, c'est la manière qu'elle a eue de mêler l'écriture, le texte et l'image. Ce que son œuvre, si on apprend son œuvre globale, est en même temps, si on veut, précurseur de la bande dessinée, parce que c'est vraiment une histoire. Et que c'est l'idée aussi qui me plaisait beaucoup au début, était le titre de l'œuvre, comme ça, la vie comme théâtre, c'est-à-dire en même temps quelque chose qui est de l'ordre de l'autobiographie, de l'autobiographie familiale, et en même temps quelque chose qui est de l'invention. Le gros choc que j'ai eu, c'était il y a maintenant 7-8 ans, à Boston, au Muséum Fine Art, où il y avait une exposition très très grande d'elle, avec pratiquement toute son œuvre. Et là, je pense que c'est vraiment important, dans son cas, de voir une continuité, c'est-à-dire de voir l'ensemble de l'œuvre. Par exemple, il y a une chose qui est très frappante et qui est normale, c'est que j'aime moins le début. Et on voit petit à petit comment elle a finalement trouvé son style. Le début est plus illustratif. Et puis il y a un moment où la chose éclate totalement, où il y a, moi j'aime surtout les gouaches, où il y a comme ça, je sais pas, la répétition de 10 corps, ou de 10 mains, ou de sorte de nageurs qui sont, genre, il y a un côté beaucoup moins illustratif et beaucoup plus rêvé, et la manière de peindre est très très différente. Au début c'est vraiment une manière assez précise, puis à la fin c'est beaucoup plus, comment dire, enlevé.
Voilà. Est-ce que ça n'est pas lié, ça, Christian Boltanski, à l'espèce d'urgence dans laquelle Charlotte Salomon entreprend ce travail, qui est quand même une œuvre de vie, de survie pour elle? Il y a une nécessité impérieuse.
Oui, je sais pas. D'abord, je pense que nous sommes tous en urgence et que, naturellement, il y avait des inquiétudes tellement plus fortes chez elle que pour nous aujourd'hui. Mais je pense qu'on ne se dit jamais ça. Je crois simplement qu'elle a compris petit à petit ce qu'elle devait faire et son style. Et j'essaie toujours de dissocier, quand je vois son travail, ce qui est très difficile, de sa fin, et puis de ce qui lui est arrivé, et puis de l'œuvre. Et il me semble que l'œuvre existe, je veux dire que en tant que telle, et que s'il n'y avait pas eu cette catastrophe, elle aurait été seulement une très grande artiste, et elle aurait fait autre chose. Et que c'est plutôt qu'elle n'a pas eu le temps de se développer complètement. Donc elle n'a fait que cela. Mais je crois qu'à la fin, elle avait vraiment découvert une forme, et une forme qui, sans doute, après ça, elle aurait peut-être fait des tableaux réellement plus grands. Enfin, je veux dire que c'est plutôt le fait, je pense, de son histoire est lié qu'elle n'avait sans doute pas beaucoup d'espace, que c'était un art qui est transportable. Et donc, comme c'était quelqu'un qui devait bouger, qui n'avait pas d'atelier, qui était la taille des feuilles, ce qu'il y a de plus simple et de plus facile, et c'est un moyen, on peut imaginer qu'elle faisait ça dans sa chambre ou dans le jardin, ou c'est quelque chose qu'on peut transporter avec soi. Mais je pense qu'après, elle serait vraiment devenue un peintre au sens de faire des tableaux grands sur toile. Et alors, effectivement, on peut dire l'urgence de la non-stabilité.
L'œuvre de Charlotte Salomon est une œuvre totale qui est conçue comme un récit. J'ai le sentiment, Nathalie Hazan, que peut-être la comparaison la plus juste serait de dire que c'est une sorte de storyboard, comme on en trouve au cinéma.
Oui, c'est exactement ça. C'est une succession d'images accompagnées par un récit. Oui, c'est exactement un storyboard. Le Vie ou théâtre, c'est une opérette en images. La plupart des personnages s'expriment sous forme de textes chantés. Je crois que la première comparaison qui vient à l'esprit, c'est avec l'opéra de Katsu de Brecht. Parce que Charlotte Salomon intitule Vie ou théâtre Dreifarben Oper, c'est-à-dire un opéra en trois couleurs, qui est quand même la transposition quasi exacte du Dreigroschen Oper. C'est une sorte de collage d'influences tout à fait diverses. On sent qu'en tant que jeune artiste et dans la vie culturelle des années 30 à Berlin, elle a glané toutes ses idées. Donc moi je crois que c'est surtout ça la forme d'un storyboard, mais c'est une opérette en mots, en images. Et c'est aussi la façon dont elle a été conçue, tout part de la musique. C'est la musique qui donne le ton, c'est la musique qui fait émerger les mots. Elle écrit son processus créatif. Elle est très claire là-dessus. La musique correspond à l'état d'âme dans lequel elle commence à peindre. Et de là, en effet, les mots naissent et elle les inscrit dans un premier temps au verso de ses gouaches, puis sur des calques, sous forme de calligramme, ce qui montre aussi l'importance des mots dans l'œuvre, puisqu'ils viennent à épouser la forme picturale de l'œuvre. Ça, c'est très impressionnant, le travail sur les calques.
Cependant, à la longue, même pour une créature y étant prédisposée, une vie aussi sombre ne pouvait être supportable. Elle se vit donc placée devant ce choix, mettre fin à ses jours, ou bien entreprendre quelque chose de vraiment fou et singulier.
Vous avez dans votre livre, Bruno Pedretti, Charlotte, la jeune fille et la mort, restitué le parcours de vie de Charlotte Salomon. Comment avez-vous pu imaginer les émois, les interrogations, les joies, les inquiétudes de cette jeune fille de la bourgeoisie juive berlinoise des années 30?
Bon, je ne suis pas ni juif, ni berlinois, et je n'ai pas vécu dans cette époque, bien sûr. Mais je suis tombé amoureux de cette fille. Et comme on fait quand on tombe amoureux, on développe beaucoup de fantaisies sur le monde de la personne qu'on aime. On veut savoir qu'est-ce qui passe derrière des expressions, son caractère, etc. Oui, j'ai un peu de sympathie pour des traditions culturelles allemandes. J'ai des sympathies aussi pour une certaine philosophie allemande du XXe siècle. Mais c'est pas suffisant, bien sûr. Je dirais que, en étant aussi un historien de l'art, j'ai trouvé dans cette œuvre, bien sûr, aussi des relations avec des débats de l'avant-garde, cette relation entre vie et œuvre. Mais je répète, je suis tombé amoureux de Charlotte. J'ai dû visiter 3 ou 4 fois sa exposition. Je sortais toujours avec le mal au estomac incroyable. J'ai souffert beaucoup.
Votre livre, Bruno Pedretti, La Charlotte, la jeune fille et la mort, n'est pas à proprement parler une biographie de Charlotte Salomon. Je dirais plutôt que c'est un portrait, mais un portrait qui a certains traits assez subjectifs, c'est-à-dire que vous y avez mis une bonne part de vous-même.
Ah oui, bien sûr. J'ai un peu étudié la vie de Charlotte. Mais enfin, c'était pas le problème d'une fidélité historique qui m'intéressait. Beaucoup de fois, quand on commence à écrire quelque chose, on ne sait pas exactement ce que l'on fait. C'est une nécessité. Et la figure de Charlotte, naturellement, m'intéressait en tant qu'artiste, histoire vraie, le drame historique. Mais je crois qu'on pourrait dire très simplement que pour moi, c'était une sorte d'icône du tragique.
Il me semble, Bruno Pedretti, que la question de l'autobiographie est au cœur de l'œuvre de Charlotte Salomon, Vie ou théâtre, en ce sens qu'elle invente sa propre vie au fur et à mesure qu'elle crée cette œuvre.
Oui, peut-être que, aussi si je ne l'avais pas compris tout de suite, bien sûr, ce que m'inquiétait et ce que continue à m'inquiéter et passionner sur Charlotte et son drame et son œuvre autobiographique, c'était cette recherche extrême d'une finale coïncidence entre la vie et son représentation. Leben oder Theater, vie ou théâtre, c'est le titre de son œuvre autobiographique. Ça signifie qu'est-ce que c'est la relation entre la fiction, l'œuvre que je peinte ou que j'écris et que je pense, et la vie que j'ai eue. C'est pas donc simplement une question par laquelle on veut voir le rapport entre la personnalité de l'artiste et son habileté, intelligence expressive, mais c'est intéressant et inquiétant Charlotte Salomon pour cette extrême coïncidence entre l'œuvre et la vie.
L'une des difficultés peut-être, Bruno Pedretti, pour aborder vie ou théâtre de Charlotte Salomon, c'est le fait qu'à aucun moment elle ne dise « je ». Charlotte Salomon se met elle-même en scène dans son œuvre, mais elle le fait en changeant de nom, elle devient oui. Charlotte Kahn et elle parle d'elle-même à la troisième personne.
Oui, oui. Ce changement des noms réels entre les noms de l'œuvre d'art, etc., ça permet à Charlotte de vivre continuellement entre cet échange d'une sorte d'œuvre d'art totale dans laquelle elle a besoin aussi de construire une sorte d'autre identité, mais qui n'est pas distinguée de son réalité, de son biographie. Aussi, elle veut donner une sorte d'autonomie à l'œuvre, mais une autonomie par laquelle l'œuvre, c'est vraiment la trace, je voudrais dire, un peu organique de l'expérience.
Suicide d'une jeune fille de 18 ans. Charlotte trouve la mort dans le Schlachtensee. Une jeune fille s'est noyée hier soir dans le Schlachtensee. Le corps, retrouvé, a été identifié ce matin par le père à la morgue. Nous présentons aux parents nos plus sincères condoléances et espérons qu'ils trouveront le réconfort auprès de leur fille aînée. Vorsiche Zeitung.
Je vous propose qu'on commence en allant voir la première, celle qui ouvre le prologue. Oui, parce qu'il faut profiter pour dire que l'œuvre est conçue en trois parties. Hein, oui. Voilà.
Alors, il y a un prologue qui traite de l'enfance de Charlotte Salomon, une partie principale qui est consacrée essentiellement à la personnalité de celui qui sera son mentor, son maître, et l'épilogue se passe dans le sud de la France, notamment autour du suicide de sa grand-mère, qui est l'élément central de vie ou théâtre.
Mais d'ailleurs, le suicide, on l'a d'emblée, parce que si on regarde la toute première gouache, 1913, donc c'est avant la naissance de Charlotte, elle n'est pas encore là, mais c'est là qu'elle fait commencer son œuvre.
Oui, elle fait commencer son œuvre avec le suicide de sa tante qui s'appelait Charlotte, et dont 4 ans plus tard, elle portera le nom. Francisca, la mère de Charlotte, incarnait selon ses parents la lumière, et ils se reprocheront beaucoup de ne pas avoir constaté la mélancolie de leur fille Charlotte.
Et mes enfants grandirent, l'une triste, l'autre joyeuse. Nous étions tout émerveillés devant l'apparition de la lumière, et nous n'avons pas remarqué que notre petite Lotte était triste, si triste. Elle avait toujours devant elle le visage enjoué de sa sœur.
Donc elle se jette dans le Schlachtensee, et c'est la première image de l'œuvre, et c'est aussi la première image qui montre le traitement pictural de Charlotte, qui est tout à fait filmique. C'est-à-dire qu'on voit toute la progression de Lotte jusqu'au Schlachtensee. On la voit marcher et finalement se jeter. Ça, c'est vraiment la trame de toutes les œuvres de Charlotte Salomon.
Il faut dire que cette première gouache, Nathalie Hazan, est très très sombre et que Charlotte Salomon joue d'une manière incroyablement sensible des luminosités, des intensités de couleurs.
Absolument. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'elle n'utilise que trois couleurs, puisque c'est un opéra en trois couleurs. Elle n'utilise que trois couleurs tout au long de son œuvre, avec du blanc, le rouge, le bleu et le jaune. Et elle arrive à des tonalités absolument incroyables. Et c'est vrai que ces premières gouaches sont incroyablement sombres. Et quand on arrive à son enfance heureuse, on a des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus chatoyantes. Enfin, il y a une variation comme ça tout au long de l'œuvre, selon les moments qu'elle traverse.
On en voit quelques-unes d'ailleurs qui sont évocatrices de sa propre naissance. Donc elle met en scène sa propre naissance. Mais avant ça, il y en a une que moi j'aime beaucoup, qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'elle représente l'appartement qui est l'appartement dans lequel elle a grandi à Berlin. Et on peut peut-être raconter comment c'est conçu, parce que c'est, moi je trouve que c'est extrêmement représentatif de son travail.
C'est-à-dire que on dirait qu'elle a fait voler le toit de la maison, et on voit en vision plongeante, on voit chaque pièce de l'appartement qu'elle décrit avec force détail. Et la pièce centrale est porteuse d'un espoir, puisqu'elle est porteuse de l'attente de Charlotte. On sent très tôt, je trouve, dans ses premières gouaches, l'absence de la mère. Elle est un personnage qui s'abstrait complètement de sa vie. Et c'est aussi le moment où apparaît le thème de la fenêtre dans l'œuvre de Charlotte Salomon, ces femmes qui regardent dehors. Et c'est vrai que la mère de Charlotte anime notamment des cercles de pensée nietzschéenne. Et Charlotte met sur un des versos de son œuvre, elle écrit que c'est probablement pas la chose la plus profitable à une jeune femme que de s'occuper de pensées nietzschéennes.
Et la mère de Charlotte, on la voit dans une des gouaches donc du prologue, qui est très importante, parce qu'on voit la mère et sa fille qui sont toutes les deux au lit, couvertes d'un très bel édredon rouge. Et sa mère lui parle du ciel, elle lui raconte le ciel. Et il y a bien évidemment là ce thème de la fenêtre qui est très très présent. Voilà, on a tout est représenté là.
Oui, il y a des scènes, il y a surtout cette scène de fusion, il y en a d'autres, mais cette scène de fusion avec mère et fille, où la mère, en effet, parle d'un au-delà qui est beaucoup plus beau que le présent et qui est beaucoup plus beau que la vie sur Terre. Et elle représente d'une manière extrêmement naïve le bon Dieu, attendant la venue de cette jeune mère, représentée comme un ange qui l'attend au ciel, entourée d'étoiles, des saints. Et Francisca dit à Charlotte que quand elle sera au ciel, elle sera l'ange qui lui déposera la lettre à la fenêtre, la lettre qui lui dira comment c'est beau là-haut dans le ciel.
Au ciel, tout est plus beau que sur terre. Et lorsque ta maman sera devenue un petit ange, elle descendra et apportera à son petit lapin, apportera une lettre dans laquelle elle dira comment c'est au ciel. Comment c'est tout là-haut dans le ciel ?
Alors, quelques gouaches plus loin, on a la suite de ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire la mère de Charlotte Salomon, là si on revient à la biographie au sens strict du terme, vient de se jeter par la fenêtre. Donc c'est une étape décisive dans la vie de cette petite fille, elle a 8 ans, et on a cette gouache absolument magnifique où il y a le corps de la mère qui vient de tomber en fait par la fenêtre et qui est un corps... sol, mais fracassé, voilà.
On est obligé de faire des allers-retours dans le temps, Mais c'est la grand-mère de Charlotte, lorsqu'elle se suicidera, le fera sous les yeux de sa petite-fille dans une rue de Nice. Et après la révélation que la mère de Charlotte n'était pas morte de la grippe, comme on lui avait dit.
Oui, parce qu'à ce moment-là, on dit à Charlotte, sa mère est morte de la grippe. Oui, on ne parle pas de suicide,
bien
sûr. On
ne parle pas de suicide. Mmh. Et donc la vision du corps fracassé de sa grand-mère dans la rue fait renaître ou fait naître l'image, enfin lui fait visualiser l'image de la chute de sa mère. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, Charlotte Salomon cite la première musique, c'est « Nous tressons pour toi la couronne de la mariée », qui est un air de l'acte 3 du Freischutz de Weber. Où l'on apporte à la mariée sa couronne de mariée, et lorsqu'elle ouvre la boîte contient une couronne mortuaire. Et ce motif accompagne toutes les gouaches autour du mariage et de la naissance de Charlotte, de la mort de sa mère, et aussi les gouaches où Charlotte écrit son désespoir de ne pas recevoir de nouvelles de sa mère lorsqu'elle est devenue un ange.
Lorsque vous dites, Christian Boltanski, que pour vous, l'œuvre de Charlotte Salomon, c'est une histoire de femme, et c'est une histoire de femme qui est quand même... Enfin, il y a une tragédie terrible dans cette lignée de femmes suicidaires. C'est une vision de la transmission de mère en fille qui est assez cauchemardesque.
Oui, mais c'est pour ça que je dis que peut-être, je veux dire que le vrai sujet est peut-être plutôt sur la difficulté d'être une femme à Berlin en 1940 plutôt que les problèmes politiques directement liés au nazisme. Voilà, et sans doute que ça fait partie de tout un mouvement qui a eu dans ces années-là en Allemagne de libération du corps, de libération du sexe, une sorte d'utopie de la liberté. Et je pense qu'il y avait, sans doute chez les jeunes Allemands intellectuels comme elle, ce désir de retrouver le corps, une sexualité libre, contrairement à tous leurs parents qui étaient là extrêmement contraints.
Si l'on avance, Nathalie Hazan, dans les gouaches du prologue, on peut peut-être aller sur l'autre panneau, vers une des gouaches qui a introduit alors une autre femme qui va être extrêmement importante dans la vie de Charlotte. C'est sa belle-mère, Paula Lindberg, de son vrai nom, et qui devient dans Vie ou Théâtre Paulinka Bimbam, de ce nom absolument magnifique.
Absolument,
elle a beaucoup d'humour en fait dans le choix des noms qu'elle donne à ses personnages.
Alors, les personnages qui ont des fonctions musicales s'appellent Zing Zang et Kling Klang. Alors Charlotte va vouer à Paulinka un amour absolu, extrêmement ambivalent, bien entendu. Et c'est vrai que Paulinka, Paula Lindberg Salomon, était une très grande cantatrice de l'époque. Elle s'était produite avec Furtwängler, avec Bruno Walter. Hindemith a écrit une pièce pour elle. Enfin, c'était vraiment une très, très grande figure du monde musical. Et elle va initier vraiment Charlotte à la musique. Enfin, Charlotte était musicienne, c'était une tradition dans la famille. Mais là, elle avait comme ça l'image d'une femme qui en avait fait son métier.
Donc là, on a une gouache avec une scène d'opéra et Paulinka sur scène,
triomphante,
voilà.
Absolument triomphante.
Elle est très belle. La représente d'ailleurs.
La représente très belle. Elle la représente aussi quelquefois, comme elle le dit, comme une mesquine petite bourgeoise allemande.
la suite du prologue. Et là, on a une première gouache, Nathalie Hazan, qui introduit, même si elle est relativement peu présente dans Vie au théâtre, mais qui introduit l'histoire.
Absolument. Il y en a quelques-unes comme ça. Enfin, Charlotte Salomon a fourni quelques jalons historiques à son histoire, et celui-là n'est pas des moindres, puisque c'est la prise de pouvoir par les nazis en 1933. Et elle montre ses visages comme ça, complètement... réduit au minimum. Il y a une date, 30 janvier 33, il y a un drapeau qui flotte.
À cette époque, justement, de nombreux juifs, lesquels sont peut-être souvent une espèce importune et qui se mettent en avant malgré un savoir-faire indéniable, occupaient de hautes fonctions au sein de l'État et ailleurs. Après la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes, ils furent tous renvoyés sans préavis. Vous voyez maintenant quel effet cela produit sur l'état d'esprit des différents individus juifs.
Et en fait, cette gouache signe l'exclusion, en l'occurrence de ses parents, de la vie publique. Son père, qui était chirurgien et enseignait à l'université, est chassé de l'université. On voit une opération qu'il est en train de réaliser, qui est barrée d'une croix rouge. Polinka chante en public. Et les nazis crient « Aus et raus ». Et Polinka ne peut plus se produire en public. Et là, il se passe un événement qui est très important et qui est central aussi dans l'histoire de Charlotte Salomon. C'est que le docteur Zingzang, Kurt Singer dans la vraie vie, décide avec quelques musiciens de créer une association culturelle juive, le Kulturbund Deutscher Juden, qui après n'aura même plus le droit de s'appeler Deutscher Juden, parce qu'ils ne pourront plus être appelés juifs allemands, mais dans la première appellation, c'est Kulturbund Deutscher Juden. Ils fondent cette association qui est censée fournir du travail à tous les artistes juifs chassés de la scène. Il va le fonder aussi avec Polinka, et ça va être une entreprise extrêmement complexe, puisque décidé d'un commun accord avec Goebbels et Hinkel, et qui va avoir des effets extrêmement paradoxaux, parce que en ghettoisant la culture juive, elle va avoir pour effet aussi de rejudaïser les juifs qui étaient souvent les juifs assimilés, qui étaient souvent très éloignés de leur culture. Mais il s'est passé des choses remarquables dans cette entreprise.
Si l'on regarde Bruno Pedretti, Vie au théâtre, avec l'éclairage de ce que l'on sait de la vie de Charlotte Salomon, il y a bien évidemment une dimension absolument tragique dans son histoire. Donc la guerre qui éclate, le suicide de sa grand-mère, qui est l'occasion pour elle de découvrir qu'elle est la descendante d'une lignée de femmes qui se sont toutes suicidées, son arrestation et sa mort à Auschwitz. Et en même temps, lorsque l'on regarde cette œuvre, elle déborde de vie, de vitalité. Il y a une force d'expression dans le traitement de la couleur, dans le mouvement, extraordinaire.
Oui, c'est vrai, il y a la vitalité d'une fille, d'une femme vraiment très très riche à l'intérieur. Et il y a aussi cette sorte de, je le décris aussi dans une des images, dans le suicide de sa tante, une sorte de conflit extrême par lequel Charlotte, qui est vraiment pleine de vie et d'une vie expressive tout à fait inouïe, un conflit par lequel la vie la plus forte demande à la mort, tu dois me combattre, mais tu devras combattre au niveau le plus haut, le plus extrême, le plus radical. La dimension tragique, je voudrais dire quelque chose, parce que je voudrais pas que la grande œuvre de Charlotte, Vie au théâtre, soit lue, regardée, approchée comme une sorte d'œuvre très importante qui nous montre la tragédie historique. Je vois dans son œuvre un sentiment du tragique encore plus haut. Il faut pas oublier que c'est pas une œuvre qui est née dans les chambres d'Auschwitz, par exemple. Il l'a fait quand elle était réfugiée à Villefranche-sur-Mer. Et que c'est pas une œuvre écrite, composée, peinte dans une situation de souffrance comme une prison, une chose comme ça. C'est pas une tragique de l'histoire, parce que le premier suicide, c'est de sa tante, sa jeune tante, dans 1913. Après 13 ans, il y a le suicide de la mère. Et après 13 ans encore, à peu près, dans 1940, le suicide de la grand-mère de Charlotte. Alors, c'est une sorte de suicide, pas contre l'histoire, pas contre les drames de l'histoire, mais c'est une sorte de symbole du tragique par lequel toutes les vies de l'homme, dans ce cas, toutes les vies de la femme, c'est donc la mort, la jeunesse, la maturité, la vieillesse. Ici, c'est un suicide qui remonte de la jeunesse à la maturité et à la vieillesse. Et c'est pour ça que j'ai découvert de plus en plus ce qui m'inquiétait. Parce que c'était vraiment une sorte de chant du destin, une chant tragique du destin.
Et c'est peut-être d'ailleurs le suicide de la grand-mère qui est le plus impressionnant de tous, puisqu'il intervient effectivement alors que c'est une très vieille dame, qu'elle a donc assisté à la mort de ses deux filles, et qu'elle décide au lendemain de la déclaration de la guerre que c'en est trop, c'est l'événement qu'elle ne va pas pouvoir surmonter.
Bien sûr, c'est le suicide qui, d'un côté, révèle à Charlotte cette chaîne du destin tragique, et on pourrait se demander qu'est-ce qu'elle s'est demandé après cette découverte, parce que ça veut dire que, bon, alors il n'y a pas de chance, hein, parce que ce n'est pas un suicide qui est né dans des situations spéciales, dans des situations dramatiques. Je distingue toujours entre drame et tragédie. Le drame, c'est le mal de l'histoire, c'est le mal des événements. Le tragique, c'est pas seulement le mal d'un événement, d'une crise historique, d'une crise psychologique. Il doit représenter une sorte de mal irréductible de l'existence en général. Et selon moi, c'est que Charlotte, la jeune Charlotte, découvre cette sorte du sentiment du tragique en tant que mal auquel on ne peut pas échapper. Parce que, en découvrant le suicide de sa grand-mère, elle découvre toute la chaîne des suicides. Elle découvre une sorte de prédestination, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire comme ça, hein. Mais je crois en général que la valeur extrême de cette œuvre de Charlotte soit enfin pas réductible ni à la dimension historiquement tragique de la Shoah, ni à la valeur d'un témoin de l'histoire, encore une fois, mais qu'on le doit apprécier, ce travail, en tant qu'un des meilleurs, des plus hauts symboles du sentiment tragique du XXe siècle.
Oh, laissez-moi mourir, laissez-moi mourir, car je sens bien que je ne peux pas vivre plus longtemps. Grand-mère, regarde donc comme le soleil brille. Je vois comme le soleil brille. Regarde donc les fleurs dans le pré. Tant de beauté, tant de joie. Regarde les montagnes là-haut, tant de soleil, tant de lumière. Je vois les fleurs épanouies. Il y a là dans le pré tant de beauté. Je vois les montagnes là-haut, tant de soleil, tant de lumière. Et notre chemin continue, toujours plus haut, toujours plus pur. Des êtres dansants, les entends-tu chanter? De la joie partout.
Mais certains personnages au sein de Vie ou Théâtre prennent en charge une part du récit pendant une durée et ils sont seuls. Je suis en train de penser au moment où sa grand-mère maternelle, donc qui apparaît dans Vie ou Théâtre sous le nom de Knarr, prend en charge le récit de cette espèce de fatalité. Elle fait un peu l'archéologie de cette lignée terrible de femmes. Bon, on a ça. Et puis on a un personnage qui aussi occupe une partie très très importante, le cœur en fait, hein, du récit, qui est le fameux fameux Amadeus d'Aberlon, dont il faut quand même parler un peu, parce que c'est un personnage très très important hein, dans la vie de Charlotte.
D'Aberlon, effectivement, c'est un personnage
Amadeus d'Aberlon, alors référence à la musique via Amadeus, et d'Aberlon, qui veut dire salaire de misère, sans le sou. Et donc, d'Aberlon fait partie de ces artistes sans travail, qui vont être momentanément récupérés par le Kulturbund et par Zingzang, qui l'envoie avec une lettre de recommandation à Paulinka. Alors, d'Aberlon est un être complet, selon lui, puisque pendant la Première Guerre mondiale, il était très jeune, il a été enterré vivant dans une tranchée, plusieurs jours, et que donc il a fait l'expérience de la mort. Pour lui, c'est au centre de sa théorie. Il faut être mort une fois pour pouvoir aborder la vie de façon totale. Donc d'Aberlon se présente à Paulinka, qui le regarde avec un œil lourd. Elle déploie tout de suite tout son attirail de séduction. Ça, Charlotte l'a extrêmement bien attrapé. Et d'emblée, il tombe fou amoureux d'elle et il décide d'en faire la cantatrice. Alors, en faire la cantatrice, ça veut dire faire l'objet de ses théories, bien entendu. La première est qu'elle chantait beaucoup mieux du temps du professeur Klinklang, donc son premier mentor, et qu'au fond, la vie qu'elle a, la vie affective, n'est pas la vie d'une artiste. Elle a un mari, des obligations, et qu'elle est en train de se détruire la voix. Donc, il essaye, avec tout son pouvoir de conviction, son amour, de l'impressionner, de l'attirer vers lui et de la faire tomber dans ses rêves.
Et qu'est-ce que c'est qu'un cours de chant dans la méthode Wolfson ? Comme dans tant de techniques contemporaines, ça consiste à se rapprocher de ce qu'il y a de plus palpitant dans l'existence, y compris d'ailleurs de la mort, du risque physique. Et c'est en ce sens qu'évidemment Wolfson et puis Roy Hart ont pu exercer une emprise si forte sur des gens jeunes qui cherchaient dans le chant, soit comme Paula, au fond un nouveau départ à une carrière de chanteur, de chanteuse professionnelle, soit des gens qui attendent du chant une sorte de ressourcement spirituel, qui considèrent le chant comme une des techniques par lesquelles on peut se réaliser soi-même. Donc Wolfson a eu une carrière assez étonnante. C'était en même temps un parasite qui s'est imposé dans la famille, qui a séduit par le moyen de son emprise la cantatrice. Puis il a essayé de séduire Charlotte. Et au fond, comme souvent certains grands séducteurs, le moyen de son emprise sur les femmes, parce que c'était surtout les femmes qui étaient visées, mais pas seulement, le moyen de son emprise, c'est de dire « je vais te révéler à toi-même ».
Et c'est un homme dont les théories sont extrêmement inspirées ou influencées par Nietzsche.
Oui, alors je pense que là en l'occurrence il faut remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que Wolfson est lui-même un produit d'un certain nietzschéisme ou d'une version nietzschéisante de la culture allemande qui est ce qu'il y a de plus répandu à partir des années 20. Et en fait ce qui domine c'est une version nietzschéisante de ce qu'il faudrait entretenir comme rapport à la vie et à la mort, à l'amour et une sorte de vulgate d'un surhomme, d'un héros, d'une héroïsation de la vie, d'une poétisation aussi de la vie, qui place Wolfson au fond dans un courant qui est le courant le plus fréquenté de la vie culturelle allemande.
Parmi les théories de Wolfson, Daniel Cohn, dont Charlotte Salomon rencontre dans son œuvre, il y a une théorie sur les jeunes filles et qui occupe une certaine place dans Vie ou Théâtre.
Oui, alors je crois que ce personnage de la jeune fille est un personnage qui a une généalogie qui fait remonter plus en amont que Nietzsche. Je crois que ce personnage de la jeune fille est un personnage essentiellement romantique, dont le romantisme allemand a porté les différentes figures à un niveau d'incandescence probablement jamais atteint dans une autre littérature, hein, de Novalis au Schlegel, la figure de la jeune fille, et aussi aussi de la jeune morte. Donc ce mélange de la jeune fille avec la jeune morte est quelque chose qui, au fond, de Novalis, il s'est des hymnes à la nuit, à Rilke et aux élégies de Duino et aux sonnets à Orphée, trace une sorte d'arc dans lequel la figure de Nietzsche vient, au fond, prendre sa place, mais pas plus. Je pense qu'il y a une sorte de condensation autour de cette figure, de ce qu'il en est d'une beauté à la fois dangereuse, trop aimable, qui peut avoir un côté vénéneux, mais qui peut aussi ne pas l'avoir, parce que le côté angélique peut être un peu plus accentué.
Amadeus d'Aberlon est le premier à identifier chez Charlotte Salomon un talent, à croire en elle au moment même où l'œuvre n'est pas encore advenue, c'est-à-dire qu'elle n'a encore rien produit. Il a cette phrase, je crois, très importante pour éclairer la lecture de Vie ou théâtre, « Je vous crois destiné à réaliser quelque chose qui dépasse la moyenne ».
Oui. Alors voilà, là on a un très bon exemple. Qu'est-ce qu'une vocation? Qu'est-ce qu'un être génial? Qui reconnaît le génie dans la forme originaire, ce qui est aussi un des termes de Goethe? C'est-à-dire qu'au fond, cette idée que les êtres sont en développement, qu'ils contiennent déjà, dans une sorte de chatoiement, une gamme des possibles, et le maître, qui peut être le héros, le poète, l'artiste, peu importe, le père aussi ou l'amant, est celui qui voit dans la forme non encore formée qu'est Charlotte, jeune fille, l'artiste qu'elle deviendra. Donc il est aussi celui qui donne. Alors dans ce rapport au don, là, il y a quelque chose que Nietzsche a beaucoup travaillé, qui est le rapport de Dionysos à Ariane.
Ce qui est très impressionnant quand on pense à Vie ou théâtre de Charlotte Salomon, c'est le fait qu'elle n'ait pas eu le temps de préméditer cette œuvre. C'est-à-dire c'est une œuvre qu'elle crée dans l'urgence, comme un acte de survie. Il n'y a aucun travaux préparatoire. Oui. Elle est directement, elle se jette dans la création et elle produit en quelques mois, 18 mois, cette œuvre effectivement totale et complète.
Oui, et ça c'est l'extrême modernité de l'œuvre de Charlotte. Par son intuition, elle a très bien compris un problème que je crois entre les majeurs, les plus importants de la culture artistique de la modernité. Les œuvres ne sont plus des choses finalisées ou finalistes ou théologiques. Les œuvres d'art peuvent être aussi le même processus de l'expérience qui envahissent les systèmes, les instruments expressifs. Bien sûr, elle a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. Elle était vraiment, je crois, une jeune fille surdouée, très cultivée, etc. Mais c'est pas ça le problème. Le problème et la qualité, c'est pas de rapporter à son préparation à l'école, etc. Mais c'est de mesurer sur cette capacité, sur ce courage extrême de prendre sa propre vie et de voir comme toute la vie, dans ce qu'elle représente en tant que mémoire de l'expérience, peut devenir organiquement l'œuvre d'art. Mais on n'aurait jamais eu une œuvre comme ça si une jeune artiste, par exemple du XIVe siècle, aurait découvert aussi cette chaîne tragique. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Que Charlotte comprend, dans les mêmes années, par exemple, ou aussi Anna Frank, décrit sa propre expérience et écrira ce chef d'œuvre de la mémoire historique, elle comprend que son vie peut devenir le théâtre, peut devenir l'œuvre d'art. Elle sent, exactement comme beaucoup des meilleurs artistes des avant-gardes, que l'œuvre d'art doit chercher presque directement dans le processus de la connaissance et de l'expérience sa propre qualité. Et c'est pour ça que si on regarde très bien toute l'œuvre autobiographique par Charlotte Salomon, les presque 800 gouaches, on voit que de plus en plus les gouaches deviennent très vite, de plus en plus abstraites, deviennent de plus en plus une sorte de paroxysme du volcan expressif, par lequel on comprend que de plus en plus dans la modernité, les meilleures cultures artistiques cherchent une référence très étroite entre l'expérience, le processus cognitif, je voudrais dire, dans une façon aussi anthropologique, et la restitution expressive.
Thank you.
je me demande vraiment ce qui serait passé, si, qu'est-ce qui serait passé après Vie au théâtre.
Elle avait survécu.
C'est
ouais, c'est, oui, c'est terrible parce qu'on a le sentiment d'être face à une, quelque chose d'extrêmement prometteur. Il y a là des, il y a une force incroyable.
C'est vraiment, c'est très éprouvant. C'est un bonheur de le montrer, bien entendu, mais c'est très éprouvant, je trouve. Parce que d'abord, se dire qu'entre 41 et 42, il y a une jeune femme comme ça, isolée dans le sud de la France, qui fait une pièce de théâtre pour un public dont elle sait très bien qu'il est absent. Et qui sera absent, et se dire qu'on est là aujourd'hui, de plus en plus à la contempler, je trouve ça dévastateur en fait. Je trouve ça terrible. Enfin, on monte son travail et on s'identifie.
Donc d'une certaine manière, c'est à partir de maintenant qu'on devrait commencer l'histoire de Vie au théâtre, parce que c'est là que c'est mis en place.
C'est là que...
Il reste que quelques gouaches, mais c'est là qu'elle a pris la décision d'entreprendre cette œuvre. Ouais, en fait.
Absolument, elle dit « La vie est belle et je vais vivre pour eux tous ». Et il y a cette gouache extraordinaire où revient le thème de la fenêtre, et elle tient une œuvre sur ses genoux et elle dit « Mon Dieu, faites que je ne devienne pas folle ». Et le nicht passe par la fenêtre. Ça, c'est incroyable.
Ah, oui.
Elle se sert des mots aussi d'une manière picturale tellement expressive. C'est-à-dire que le nicht est franchi et dehors.
Ouais,
Et elle vit comme dans un rêve éveillé toute la beauté qui l'entourait. Elle vit la mer et ressentit le soleil. Et elle comprit. Il lui fallait pour quelque temps disparaître de la surface humaine.
Il lui fallait pour cela consentir à tous. Disparaître de la surface humaine. C'est ça.
Et pour cela consentir à tous les sacrifices, afin de recréer des profondeurs de son être, son propre univers. C'est ainsi que vit le jour la vie ou le théâtre.
Que vit le jour das Leben oder das Theater. La vie ou le théâtre.
Mais sur son corps...
Oui, alors là, on est face à la dernière...
Oui, c'est la dernière
gouache. Oui.
Sur son corps, elle tourne le dos au spectateur, ce qui n'est quand même pas... ce qui n'est pas tout à fait anodin. Elle lui tourne le dos, enfin, elle est de trois quarts. Elle est en train de peindre dans une position comme ça, les jambes repliées sous elle-même. Et puis, elle a écrit sur son corps... Ça, c'est aussi assez extraordinaire d'écrire les mots de vie ou théâtre sur son corps. Et là... C'est le titre exact de la pièce, Leben oder Theater, la vie ou le théâtre. Et en effet, dernière apparition d'une fenêtre, ce cadre qu'elle tient, sur lequel elle peint, il y a un pinceau, mais qui est transparent et qui reflète l'eau, sa jambe et un petit peu du sol.
Et voilà. Donc elle est en maillot de bain et elle est face à la mer.
Et elle est face à la mer. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit, c'est que la guerre faisait rage et j'étais assise au bord de la mer. Et je peignais et je sondais le cœur des humains. Charlotte, après la mort de son grand-père, est retournée à Villefranche, dans la maison, malgré les exhortations du docteur Moridis, et il l'a supplié de se cacher. Il ne s'est pas caché. Il y a quelque chose de très troublant aussi dans tout ça. Quand il fallait aller se déclarer à la mairie de Nice, elle est montée dans le bus. C'est un gendarme qui l'a fait descendre. C'était la loi, selon elle. Il fallait se déclarer. Et elle retrouve dans la maison de Tilly Moore, cette femme américaine, sa bienfaitrice, qui est partie aux États-Unis. Elle retrouve un homme plus âgé qu'elle, Alexander Nagler, c'est un juif autrichien. Et elle écrit dans son post-scriptum, « Elle m'a laissé un homme dont je ne sais pas quoi faire. » C'est tout ce qu'elle dit sur lui. Et Emil Strauss raconte que petit à petit, ils se sont attachés l'un à l'autre. Ils s'intéressaient beaucoup à son travail et elle se sentait soutenue. Et quand elle a été enceinte, et c'était un homme d'honneur, il lui a proposé le mariage et il est allé déclarer leur mariage à la mairie de Villefranche. Et puis quelques mois après, il y a une voiture qui s'est arrêtée devant la maison. Et qui les a emmenés à Nice, puis à Drancy et à Auschwitz, où Charlotte a été assassinée sans doute le jour même de son arrivée. On a les papiers de son internement à Drancy, la liste du convoi.
Lorsque Charlotte Salomon, en 1943, remet son œuvre au médecin de Villefranche, elle lui dit « Prenez-en soin, c'est toute ma vie ». Elle a probablement, d'une façon ou d'une autre, la connaissance de ce qui va lui arriver. Et son œuvre a réussi à traverser le temps, à traverser la guerre, à lui survivre, à être préservée et à arriver jusqu'à nous. Il y a là quelque chose de très fort, très émouvant.
Oui. J'ai l'impression qu'elle cherchait la fin. Il y a plusieurs symptômes par lesquels on peut soupçonner qu'elle cherchait un peu la fin. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a aperçu dans cette façon extrême et complète la dimension tragique de la généalogie féminine de sa famille. Bien sûr, on pourrait penser que, bon, on peut se suicider quand on sent vraiment la menace très proche. C'est pas le cas de Charlotte. Elle est retournée à vivre à la résidence de l'Ermitage, à Villefranche, et elle a décidé de se marier. On pouvait aussi éviter de se marier, par exemple. Rester un peu plus dans l'anonymat, non? Je dis pas qu'elle voulait mourir, bien sûr, hein. Il faut pas équivoquer. Peut-être qu'elle a sous-évalué aussi les menaces, dans une façon un peu vitale, un peu de jeune fille, mais qui nous explique pas alors la force tragique qu'elle exprime dans son œuvre. J'ai l'impression un peu qu'elle était un peu devenue fataliste en respect de son œuvre, de sa recherche, non, dans ses horizons du tragique contemporain.
Une vie, une œuvre, Charlotte Salomon, avec Christian Boltanski, peintre, Daniel Cohn, philosophe, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, Nathalie Hazan, commissaire de l'exposition Charlotte Salomon, vie ou théâtre au Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris, Pierre Pachet, écrivain, auteur de L'amour dans le temps, publié aux éditions Calman-Lévy, et Bruno Pedretti, historien de l'art, auteur de Charlotte, la jeune fille et la mort, publié aux éditions Robert Laffont. Texte lu par Sophie Dole.
L'important, je pense, ce serait vraiment, parce que en même temps, les dernières gouaches de Charlotte Salomon, la dernière partie du livre, est extrêmement inventif et pourrait être un travail fait aujourd'hui. Quelque chose qui est même très peu datable. Le début est plus datable et on voit plus les influences, et à la fin elle se libère complètement, et je verrai ça au Palais de Tokyo fait par un jeune artiste de 25 ans que je pensais que c'est tout à fait raisonnable. Donc il y a une découverte des formes. Et qu'elle a, il n'y a aucun progrès en art naturellement, il y a même peu de changements en art, mais disons, elle a trouvé des formes qui sont tout à fait contemporaines. Et qu'il faudrait la voir, si j'avais à la montrer, je la montrerais vraiment au milieu d'artistes contemporains, et je la montrerais comme une contemporaine.
Mixage Marie-Dominique Bougot, réalisation Dominique Costa. Une émission de Catherine Pont-Imbert.
Cette émission est disponible en réécoute et podcast sur le site de France Culture. Vous pouvez nous joindre via les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine pour Une vie, une œuvre consacrée au chanteur pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan.